Winnet en direct
avec JC,
Mono
et Patricia.
Juste à se connecter avec notre cœur et c'est tout.
Radio X.
On y revient toujours un peu ou des fois beaucoup. L'économie. C'est par là que ça passe. Monsieur Vincent Gélozo qui est là pour nous parler d'économie chaque semaine. Bonjour Vincent, comment vas-tu?
Bonjour, comment ça va toi?
Ben ouais, ça va bien. Moi, ça va bien parce que tu sais, des fois dans la vie, tu prends des décisions. J'en ai pris une importante. Puis voilà, ça va bien malgré tout. Parce que sinon, ça irait pas bien. Avec l'élection de Mark Carney hier, là, ça irait pas bien.
Ah, écoute, je te laisse penser à tout ça. Moi, je sais pas tout.
T'es
bien. Tu sais ce que je pense de la politique.
Ben, parlons pas de politique, mais parlons quand même d'économie qui a quand même une incidence particulière sur la politique. Parlons du Canada un peu. J'aime ça. Tu m'as envoyé un document il y a à peu près 2 semaines. Document du gouvernement du Canada pris sur le site de StatCan concernant la croissance, la productivité au Canada. Comment ça va notre économie, notre croissance, notre productivité au Canada?
Bien, tout d'abord, je pense que je vais donner un petit peu un petit shot de contexte parce que c'est quelque chose d'étrange qui se passe à l'intérieur des différentes agences gouvernementales. Depuis à peu près 2 ans, il y a plein d'agences gouvernementales qui sortent des affaires où est-ce que tu te dis, est-ce que c'est le gouvernement en train de contredire le gouvernement? Parce que c'est vraiment, cette étude-là de Statistique Canada, c'est, moi je l'aime beaucoup, c'est super bien fait comme étude, mais ça frôle un peu la ligne d'un politicien n'aimerait pas beaucoup entendre parler de cette étude-là. Fait que je suis comme un peu surpris qu'il y ait ça. Et ce qu'elle dit, c'est tout d'abord une observation de fait qui n'est pas débattue. Au Canada, la productivité stagne relativement aux États-Unis. Donc, quand on a des gains, ils sont à peu près les mêmes gains qu'aux États-Unis.
On suit.
Mais plus souvent qu'autrement, les États-Unis ont plus de gains que nous, on a les mêmes qu'eux. Peut-être une année de temps en temps, on a des gains un peu plus forts qu'eux, mais en gros, il y a un écart de productivité entre le Canada et les États-Unis. Et des petits signes qu'ils se creusent. Donc, on ne ferme pas l'écart, on est en train de l'agrandir.
En d'autres mots, est-ce que ce que tu me dis, c'est qu'on est un peu piné sur la remorque, là? On est un peu attaché, là. Les États-Unis, c'est indissociable, en fait. On le sait, là, il y a beaucoup de gens qui le disent. Les États-Unis vont mal, c'est très peu probable qu'on aille super bien, là.
Oui, mais écoute, oui, absolument. Mais en même temps, il y a toujours... Quand tu es toujours derrière l'autre... C'est-à-dire que éventuellement, oui, d'accord, vous pouvez bouger ensemble. Un peu comme si ma femme et moi, on a une situation où est-ce qu'on est en famine. Ma femme puis moi, on risque de perdre du poids en même temps, mais ouais. Je suis un petit peu plus gros que ma conjointe. Donc, tu sais, c'est pas au même niveau. Ouais. Donc,
et ça fera pas aussi mal, c'est ça, là.
Ben, probablement, mais tu sais, je veux dire, c'est un peu ça, quoi, qu'ici, c'est peut-être mieux que moi, j'en perds beaucoup dans mon cas à moi, mais présumons que plus c'est mieux dans ce cas-ci pour l'analogie. Mais ce qui est intéressant dans l'étude de StatCan, c'est qu'ils ont fait un lien de cause à effet entre pourquoi le Canada a une performance de productivité un peu décevante. Si c'est pas complètement décevant.
Ouais, j'allais dire je te trouve donc bien mesuré aujourd'hui.
Ah, ben j'essaie d'être calme. Qu'est-ce que tu veux?
Non, c'est correct.
Mais ils regardent le rôle de la concurrence et surtout des politiques de concurrence. Puis c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'ils ont pris toutes les mesures possibles de concurrence puis ils ont regardé, OK, est-ce que la concurrence au Canada détermine la productivité? Et dans une autre étude, quelques mois avant, ils ont regardé aussi les réglementations qui réduisent la concurrence. C'est pour ça que je suis là. OK, voyons donc, StatCan est rendu à faire des choses que...
Ça critique. C'est quasiment politique, là. Parce que, je veux dire...
Ben, écoute, pas... je vais faire une défense des gens de StatCan. Je pense pas qu'ils font de la politique. Mais pour un politicien, ces genres d'études-là peuvent être... pas particulièrement plaisante. C'est sûr que si nos grands médias étaient capables de comprendre l'étude, on aurait des commentaires. Probablement que les gens seraient au courant, mais... J'ai été un peu baveux parce que ces études-là sont tombées dans le vide malgré qu'elles sont excessivement bien faite.
C'est disponible.
Mais en gros, ce qu'ils trouvent, c'est disponible publiquement. Là. C'est pas derrière les paywalls universitaires puis tout ça. C'est vraiment accessible au grand public. Et ils trouvent que plus de concurrence tend à améliorer la productivité.
Oui, mais ça, mais Vincent, tu sais, je veux dire, tu me dis ça, ça fait quoi, presque 2 ans là, qu'on fait des interventions? Quoi, ça doit faire une bonne 12aine de fois là, que tu me dis que la concurrence a un lien direct sur la productivité. Plus de concurrence, plus d'investissement, plus de risques, plus de, tu sais, je veux dire, là, on n'est pas en train de refaire le monde, là. Tu sais, je veux dire, c'est, oui, l'étude le démontre, mais c'est documenté, ça, là.
Oui, puis en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans l'étude, ils regardent pourquoi est-ce que même la concurrence est liée à l'innovation. Et ils disent, bien, c'est parce que, imagine que tu es à une frontière technologique. Okay, on fait tout super bien, là, on n'est pas inefficace, on fait tout le mieux possible. Il y a beaucoup de gains qui étaient... Toutes les gains qui ont été à faire ont déjà été faits. Donc, la seule manière que tu as, c'est de repousser la frontière.
Ouais.
Ça veut dire de la recherche et du développement,
ouais,
des nouveaux procédés, des nouveaux produits, des nouvelles techniques. Fait qu'il faut que tu dépenses beaucoup pour pousser la frontière. Mais pour être incité à pousser la frontière, il faut que tu sentes une menace qui t'arrive dans le dos de quelqu'un, que ce soit quelqu'un dans l'industrie ou quelqu'un qui peut créer un produit qui te remplace entièrement.
Mmh.
Et donc, ce qui est regardé, c'est est-ce qu'il y a plus d'innovation dans les marchés ou il y a plus de concurrence potentielle? Et ce qu'ils trouvent, c'est exactement ça. Puis, lié avec l'autre étude avant sur les réglementations, les réglementations incluent des choses que toi et moi, on a déjà parlé. Puis si les auditeurs qui ont le malheur de m'écouter à chaque fois que je viens t'en jaser, ça inclut le secteur aérien,
ben oui,
on a déjà parlé,
ben
qu'il y a des barrières légales à la concurrence, que ce soit le secteur des télécoms dans lequel il y a une concurrence, il y a des barrières légales que l'État impose. Mais après ça, tu sais, puis je peux te faire une liste des industries par province. Au Québec, tu as des réglementations sur le transport par autobus entre les villes, donc le transport par autobus, les autocars, si tu veux. Tu as des restrictions sur qui peut faire du taxi, qui peut faire des hôtels, qui peut faire des services avec Airbnb.
Est-ce que je peux même entrer là-dedans l'alimentation?
Oui, ben en fait, une des choses que je soulignais qui m'avait causé un petit peu une sorte de problème, c'est que tu avais pendant... Là, comme tu sais, je t'approche tous les politiciens. Malgré que je suis souverainiste, je vais t'approcher un peu le chef du Parti québécois ici, qui avait dit pendant plusieurs mois les marges de profit des épiceries sont trop grandes. Mais il oublie de noter que dans le secteur des épiceries, il y a plusieurs barrières et permis qui doivent être acquis qui empêche à des gens de faire concurrence sur des marges comme, par exemple, si je veux être un petit détaillant, disons que je suis un saucissier, puis je veux vendre des saucisses, mais aussi d'autres produits, bien, les autres produits, souvent, j'ai besoin d'un permis additionnel pour pouvoir offrir ces autres services-là. Donc, je ne peux pas faire concurrence en offrant un panier de services différents aux clients. Donc, je ne peux pas faire saucisses, fromage et peut-être des bières en même temps.
Ouais.
Je ne peux pas faire un café avec ça. Je dois comme...
limiter.
J'ai comme c'est ça, mais ça, ce que tu fais, c'est que tu limites la concurrence dans des formes différentes. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui consomment, qui se retrouvent avec moins de concurrence que tu aurais pour des services en épicerie. Puis quand tu regardes, tu as une multiplicité de barrières pour la concurrence en épicerie. Pendant longtemps, au Québec, on avait des restrictions sur les heures de commerce, ce qui faisait que les épiceries ne pouvaient pas se faire concurrence sur des prix plus élevés si tu vas de soir, mais au moins ton service est disponible tout le temps.
Ouais.
Il n'y avait rien
de plus. On empêche des branches complètes de compétition. Tout
exactement
est réglementé. Puis juste, tu sais, parce que c'est pas... c'est écrit, là. C'est un truc du gouvernement. Là, en considérant... Je sais que tu ne veux pas faire de politique, mais quand même, la question... Je n'ai pas le choix de la poser, tu sais. Là, on est le pays qui a la pire productivité du G7. Ça, c'est écrit sur le site du gouvernement. Quand
la
est-ce
pire
que. Man...
croissance.
Oui, OK, excuse-moi.
C'est
tout ça est là-dedans, là. On est là-dedans, là. Croissance de productivité, c'est le sujet, là. Donc, on a la pire du G7. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un politicien qui regarde l'étude qui est sur son propre site Internet et qui réalise qu'il faut faire quelque chose? Qu'est-ce qui bloque? C'est-tu des lobbies? Y a-tu une force obscure qu'on connaît pas? Y a quelque chose? Parce que la solution, tu viens me l'envoyer, elle est décrite sur 7 pages. Là. On est là.
Ben écoute, la réponse est pas super plaisante à donner. C'est que puis j'ai déjà cité cette personne-là, l'ancien commissaire de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, qui disait « On sait tout ce qu'il faut qu'on fasse, mais on n'a aucune idée comment se faire réélire une fois qu'on le fait. » Et ils savent, en fait. J'ai déjà eu des conversations avec des anciens ministres, avec des ministres, mais derrière portes fermées. Où est-ce qu'il disait ouvertement, on peut juste pas gagner en disant ça? Puis que c'est concédé, là.
Mais pourquoi, Vincent? Parce que c'est pas on n'est pas en train d'expliquer la création d'un moteur nucléaire pour aller sur Mars, là. Tu sais, je veux dire,
parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les bénéfices de ces réformes-là, disons, on libéraliserait les télécommunications, pour prendre
ouais, mettons.
Si tu libéralises les télécommunications, qu'il y a plus de concurrents, les bénéfices sont gigantesques, mais ils sont divisés sur, disons, 34,5 millions de Canadiens.
Ouais.
OK? Les coûts de la réforme, parce que maintenant, la compagnie qui était en situation de protéger contre la concurrence, elle avait des bénéfices. Puis tu avais, disons, un 250 000 ou 300 000 Canadiens qui bénéficiaient de cette politique-là parce qu'il y avait moins de concurrence. Bien, ces gens-là, eux, se retrouvent perdants de la réforme. Mais le problème, c'est que les coûts sont diffusés sur une très large population et les bénéfices sont concentrés dans un petit groupe. Fait que, qui tu penses qui va résister puis qui tu penses qui va pousser pour des réformes? Bien, ceux qui gagnent des réformes ont très peu d'incitation à aller dans la rue. Personne ne va aller dans la rue, par exemple, si c'est 100 $ de moins en bill de télécom chaque année. Si ton cellulaire te coûte 100 $ de moins, il n'y a personne qui va aller manifester à Montréal pour 100 $ de moins par année. Par contre, l'industrie où chacun des membres, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars par personne, disons, pour exagérer, mais ces gens-là vont aller voir les politiciens, vont se trouver un lobbyiste, vont trouver quelque chose, et ils vont, après ça, essayer de faire du messaging politique pour dire, par exemple, on va prendre nos producteurs laitiers qui, eux, font ça à chaque fois que la gestion de l'offre est sur la table. Vous aimez pas les Canadiens, vous les forcez à boire du lait des Américains.
Oui, du lait plein d'hormones bizarres.
Exactement. Puis là, on sort le drapeau, on s'enrôle dans le drapeau, on fait du faux nationalisme, qu'on appelle en anglais du jingoïsme, que j'ai toujours mieux aimé comme terme parce que ça dénote une espèce d'aspect primitif du raisonnement qui vient avec. Puis là, on fait dans cette espèce de discussion-là et on essaye de faire en sorte que le politicien sente qu'il va perdre des élections s'il ne concède pas à la préservation d'une politique qui... globalement, de manière agrégée pour la société, coûte plus cher que ce qu'elle vaut. C'est juste parce que tu as des intérêts très concentrés qui ont avantage à ça. C'est pour ça que tu me demandes pourquoi il y a peu de réformes. Ben peut-être pour ça.
Ouais, c'est bon parce que ces gens-là travaillent pour nous autres. C'est ça qui est le fun. Mettons que je veux prendre la discussion qu'on a présentement puis la ramener au Québec parce que parmi les provinces canadiennes où déjà, tu viens de l'exprimer très clairement, il y a beaucoup de protectionnisme puis de semi-monopole. Le Québec a une couche de plus. Là. Quand on parle de la SAQ, juste donner cet exemple-là, il y aurait de la marge au Québec extraordinaire pour améliorer cette croissance de productivité-là, non?
Écoute, moi, je
peux... Hey, là, on parle de carrément un nouveau marché, là, bang!
Attends, mais moi, je peux pas me prononcer sur les questions d'alcool pour la simple et bonne raison que ma famille opère dans le monde de la vente d'alcool, pas depuis quelques années, là, mais j'ai une partie de ma famille qui est impliquée là-dedans. Et donc, j'ai un petit peu un conflit d'intérêt à me prononcer là-dessus. Okay. Donc, je vais éviter ce sujet-là.
Ben, enlève la SAQ. Je le déclare. Enlève la SAQ. Mais... avec les nombreux monopoles du Québec, tiens, je vais t'enrober ça dans une espèce de fourre-tout. Il y aurait de la marge ici pour se donner du jus, là.
Ben oui, puis écoute, l'exemple que je trouve le plus ridicule au Québec, c'est les autobus. Parce que si tu veux faire du service entre Montréal et Québec, le ministère du Transport permet juste à une compagnie de faire ce service-là.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Et tu te demandes après ça, oui, mais il doit avoir une raison. La raison, c'est que ça protège effectivement la compagnie qui est dans cette position-là d'avoir à faire de la concurrence avec d'autres compagnies.
C'est terrible.
Mais par contre, puis ça, il y a une sorte de truc dans la loi canadienne qui permet ça, c'est que si c'est entre provinces, là, il n'y a pas de barrière à la concurrence. Fait que tu as plusieurs choix pour aller entre Toronto puis Montréal. Tu peux avoir des choix. Mais ces réglementations-là sont conçues pour préserver une part du marché pour ces joueurs-là. Et ce que tu as, quand on regarde par contre les places où ils ont enlevé par exemple, en Alberta, qui ont enlevé ces types de restrictions-là, comme celles qui existent au Québec, ce qu'on observe, c'est que le prix des transports par autobus a baissé modérément depuis quelques années et l'offre de services a augmenté. Et ça serait encore mieux si tu permettais des services de type différent. Donc là, tu as même des aspects dans la loi qui dit comment tu peux fournir le service, mais tu n'as pas le droit de faire un service de minivan, par exemple, où tu prends une minivan qui fait juste ça, mais tu le fais une fois par semaine. Il faut que tu aies des horaires fixes, il faut que tu aies des méthodes fixes. C'est sûr que tu réduis la concurrence. Puis là, c'est sur un petit marché. Là, on parle des autobus, les autocars.
Transport interurbain.
Mais là, tu en as plusieurs, des trucs comme ça au Québec, dans lesquels tu as besoin de permis pour rentrer, pour jouer contre un autre. Là, ça fait en sorte que certains joueurs sont protégés. Bien là, cumule ça sur 1, 2, 3, 4, 50 ou 100 industries dans lesquelles il existe ces petites barrières que l'État, individuellement, ont l'air de ne pas être très importantes. Mais fais le cumul de ça et ce que tu as, c'est une économie avec beaucoup moins de pression concurrentielle, avec beaucoup moins d'incitation à innover. Et ce que tu as, ultimement, c'est, bon, bien sûr, moins d'innovation, mais aussi des prix plus élevés, des salaires réels qui sont plus bas. Et donc, une population qui, selon moi, est plus mal en point à cause qu'elle est plus pauvre.
Faut se laisser, mais juste avant de te laisser aller, parce que tu parles de réglementation, puis ça, je sais pas pourquoi depuis tantôt je pense à ça. Là. Tu te souviens quand on a dit qu'il fallait faire tomber les barrières interprovinciales, que c'était la première étape à faire pour améliorer l'économie canadienne, puis les transferts d'économie entre les provinces. Puis là, à un moment donné, ils ont sorti un communiqué pour nous dire qu'il y avait... Effectivement, là, il y a 2-3 affaires qu'on avait décidé d'abolir dans les barrières interprovinciales. Et là-dedans, Vincent, je te le jure, là, je te le jure, c'était écrit dans un journal sérieux, là. On a aboli, imagine, le fait qu'un jockey, qui chevauche...
Fait de la musique?
Non, okay. un jockey là, qui conduit des chevaux.
Des courses de chevaux.
Il n'y a plus de courses de chevaux au Québec. Là, on a aboli la règle qui disait qu'un jockey qui fait de la course au Québec devait être né au Québec. T'imagines à quel point on est poigné dans des affaires de même depuis toujours.
Mais t'en veux-tu une plus comique? J'ai un ami qui travaillait... Je sais pas s'il est encore là, mais il travaillait pour le ministre Girard. Il s'appelle Jean-Philippe Fournier. Il m'avait partagé l'histoire des sièges d'auto pour enfants au Québec. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le Québec avait des règles où est-ce que la manière... Le rembourrage des sièges pour enfants, je te niaise pas, le rembourrage était tellement unique au Québec que tu devais faire de manière séparée des sièges qui étaient vendus pour le Québec. Donc là, on parle du padding dans le siège, là. Puis le Québec permettait juste du padding qui était synthétique. Puis l'Ontario, elle, disait, fais ce que tu veux, tant que c'est confortable. En gros, là,
oui, c'est
tant
ça.
Que les gens sont, tant que les gens veulent
tant que les bébés sont bien, oui, c'est ça.
Bien, ce que ça faisait, c'est que tu avais des aspects, des services. Puis ça a l'air anodin, mais ce que ça veut dire, c'est que tu fais des duplications de coûts pour certains types de services. Et tu te retrouves donc avec pas juste des duplications de coûts, mais en plus, tu segmentes le marché. Donc, tu peux pas avoir quelqu'un qui dit « je vais essayer de faire concurrence à un joueur en Ontario » parce qu'il est pas capable d'atteindre la taille suffisante pour aussi peut-être faire des services au Québec. Mais s'il pouvait faire les deux en même temps, là, il pourrait faire concurrence. Donc là, tu mets plein de petites barrière
comme
ça. Fait
que ça n'a pas de sens, ben oui.
Ben c'est ça, puis tu peux t'imaginer une sorte de... Prends de l'eau qui descend une montagne, puis t'arrêtes pas de mettre des roches dans le chemin du flot d'eau, puis t'en mets assez. Tu vas voir que la rivière va dans toutes les directions, puis tu vas pas remplir le lac au bas de la montagne. Tu vas juste te retrouver avec 100 000 déversements dans toutes les directions,
partout.
Donc une grosse perte d'efficacité.
Exact.
Et ça, c'est peut-être la meilleure analogie. Et chacune de ces barrières-là, c'est des barrières à la compétition que les gouvernements mettent. Puis je pense à celui des sièges d'auto pour enfants. Peut-être que j'oublie des détails parce que Jean-Philippe m'en avait parlé en long et en large, mais c'était ça devrait te montrer l'espèce d'aspect ridicule du coût économique de ces barrières à la compétition-là qui sont subtiles, mais cumulativement très, très, très nocifs.
Et bien présente. Merci, Vincent Gélozo. Toujours le fun, José. On se reprend la semaine prochaine.
Toujours un plaisir.
Salut, bye. Vincent Gelozo, professeur au George Mason University. Il y a eu d'ailleurs une belle promotion dernièrement. Et économiste senior chenou à l'Institut économique de Montréal. 14h04. Quelqu'un me ramène à l'ordre. Je m'excuse. J'ai dit ça. Il n'y a plus de course. C'est pas vrai. Il n'y a plus d'hippodrome à Québec. Blue Bonnet à Montréal, c'est fermé. Mais il y a encore l'hippodrome de Trois-Rivières.
Oui, exactement, à Trois-Rivières.
40 programmes de courses par année. Je m'en excuse. Et sachez maintenant, par exemple, jockey québécois.
Oui.
Les Ontariens peuvent chauffer des chevaux.
Oh!
Vous êtes dans la merde. Va falloir être bon, hein?
Ouellette, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.